Je laisse la place.
Merci François. Donc, avant de lire le passage, je vais prier. Prions. Merci à notre Père pour ce passage. Merci pour ta parole. Et Père, nous voulons te demander ce matin de nous ouvrir les yeux par ton esprit, par ta parole. Nous avons besoin de ton œuvre ce matin pour voir Jésus, pour croire en lui, pour mettre notre confiance en lui. Et Père, nous voulons te demander de faire justement ça pour ta gloire. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, Luc chapitre 24 et les versets 13 à 35. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » ?»« Crois, leur dit-il. » Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le retint avec insistance en disant « Reste avec nous car le soir approche ». Le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Alors, ce matin, nous allons parler d'un voyage. J'aime bien les voyages, j'en ai fait un certain nombre. J'aime bien voyager loin pour être bien dépaysé, être dans un autre monde pour un instant. Mais après, c'est toujours bien de revenir à la maison, revenir à ce qui est familier. Alors, l'idée de voyager est très présente dans ce passage, on va le voir, bien sûr, mais aussi dans Luc, l'évangile de Luc en général. Jésus entreprend un grand voyage avec ses disciples jusqu'à Jérusalem, où il est livré à la mort. Alors, comme Luc dit au début de son évangile, il a choisi soigneusement, de manière attentionnée, tout ce qu'il trouve dans ce livre. Et voici les versets au début de son évangile qui expliquent la raison de son évangile. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et dans un sens, l'évangéliste Luc a invité ce monsieur Théophile à lui rejoindre sur un voyage. Un voyage au cœur du message chrétien. Un message avec un contenu. Un contenu basé sur des événements historiques. Et Luc veut que Théophile, en voyageant avec lui, dans le temps et dans l'espace, il veut qu'il soit convaincu de la véracité objective de ce qu'il a reçu comme enseignement. Et Théophile, à la fin de ce récit, trouve le récit d'un voyage. Un voyage dans un voyage, en quelque sorte. Le voyage avec Cléopas et cet autre disciple. Et bien sûr, avec le Christ ressuscité, Jésus, le Sauveur divin. Et ce voyage l'invite à être sûr de ce qu'il a reçu comme enseignement. De voir avec ses propres yeux que Jésus de Nazareth est bel et bien le Messie, le roi envoyé par Dieu, qu'il était mort, mais aujourd'hui, il est vivant, ressuscité, dans la gloire. Alors, mais sans trop parler du contexte plus large du livre, on va nous plonger dans ce récit, qui est à plein d'égards une pierre précieuse pour comprendre l'Évangile. C'est aussi une œuvre historique extraordinaire et une œuvre littéraire sculptée avec finesse. Nous trouvons deux disciples qui voyagent dans le mauvais sens, si on veut. Ils quittent Jérusalem. Mais à la fin du récit, ils ont fait le trajet du retour. Ils ont fait volte-face. Et c'est le récit d'un voyage de la tristesse à la joie, de l'incrédulité à la foi, de l'ignorance à la compréhension, du désespoir à l'espérance. Et c'est une rencontre avec Jésus, le Christ ressuscité, qui a tout changé. Et ça, c'est peut-être c'est le témoignage d'un bon nombre d'entre nous ce matin. C'est une rencontre avec le Christ ressuscité qui a changé nos vies. Oui, on peut parler de la véracité historique objective de l'Évangile parce que cette histoire est vraie, basée sur des témoignages véridiques. Mais ce qui a fait la différence, c'était une rencontre avec Jésus, le Seigneur vivant, ressuscité, celui qui est le Seigneur, le Maître. Alors on ne sait pas avec certitude où se trouve cette ville, Emmaüs. Elle était à quelques kilomètres de Jérusalem. Ça se passe le jour de la résurrection, le dimanche de Pâques, le premier jour de la semaine. Ces deux disciples, Cléopas et cet autre, on ne connaît pas son nom, certains pensent que c'était peut-être sa femme, en tout cas, ces deux disciples discutent entre eux. C'est une discussion profonde, peut-être un débat. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils ne savent pas quoi conclure. Alors, on lit au verset 15, « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » C'est curieux, n'est-ce pas? Ils parlent entre eux de Jésus, et là, Jésus est devant eux. Nous, les lecteurs, nous savons qu'il s'agit bel et bien de Jésus. Mais eux, Pourtant, Jésus est juste devant eux, ne le reconnaissent pas. Si ce n'est pas comique, c'est certainement ironique. Jésus aurait pu dire « Coucou, c'est moi !» Voyez, réveillez-vous. Mais Jésus ne l'a pas fait. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, pour ceux qui aiment la grammaire, c'est ce qu'on appelle un passif divin. C'est Dieu qui les a empêchés de le reconnaître. Alors pourquoi? On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais à ce stade, et la suite du passage nous le révèle, cette attente, ce délai, a conduit à un moment d'enseignement extraordinaire. Jésus avait quelque chose d'important à leur dire. Et Luc, qui n'a que 3 récits sur la résurrection, veut que nous l'écoutions. Jésus veut nous dire quelque chose ce matin aussi. Il veut nous inviter à cheminer avec lui. Ou plutôt, Jésus s'invite sur notre voyage pour nous parler de lui-même. Où que nous en soyons ce matin, que nous ayons une foi forte ou une foi faible, une foi balbutiante ou une foi inexistante, Jésus veut s'inviter ce matin pour faire un bout de chemin ensemble. Et les 2 grandes choses qu'il veut mettre en avant concernent d'abord la centralité de la croix, la centralité de la mort de Jésus, le fait que sa mort était absolument nécessaire, qu'elle était incontournable. Et nous avons besoin de le savoir, d'en être pleinement convaincus. Donc ce premier point, l'espoir naît et vit au pied de la croix. Et ensuite, Jésus veut nous parler de la nature de la foi. Et nous verrons comment cette foi naît. Elle naît à la suite d'une œuvre souveraine de Dieu qui nous éclaire, qui nous éclaircit, qui bouleverse nos cœurs par sa parole. On va commencer par ce premier point, donc la centralité de la croix. Jésus s'invite à faire chemin ensemble avec Cléopas et l'autre disciple. Et Jésus leur demande, donc verset 17, « De quoi parlez-vous en marchant ?» Et donc, peut-être dans une autre version qui est peut-être plus proche du grec, ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Alors Jésus sait pourquoi ils sont tristes, mais il leur pose la question et leur réponse est éclairante. Ils ont perdu tout espoir. Ils avaient espéré que ce Jésus de Nazareth allait délivrer son peuple, qu'il allait être leur rédempteur, leur libérateur, non pas que des Romains, l'armée occupante de l'époque, mais aussi de leur idolâtrie, de leur faute. Ces hommes avaient passé du temps avec Jésus. On le sent dans leurs paroles. Jésus de Nazareth était un prophète puissant en acte et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Leur espoir a été ravi par la mort, le grand destructeur des espoirs de l'homme. Lorsque nous mettons notre espérance en l'homme, dans les hommes, nos attentes sont toujours déçues. On le voit sur le plan de l'échiquier politique, pas qu'aujourd'hui, mais depuis les temps immémoriaux. Ici, ces 2 hommes parlent d'un prophète. Alors Jésus est un prophète, un homme qui a parlé au nom de Dieu, mais la suite du récit nous montre qu'il est beaucoup plus qu'un prophète. Alors pour ces hommes, l'espoir est décédé à la croix. Mais Jésus tient à leur expliquer que non, au contraire, l'espoir est possible grâce à la croix. C'est au pied de la croix que l'espérance peut naître, peut jaillir. C'est grâce à la croix que l'espérance chrétienne n'est pas vaine. Alors, que dit Jésus au juste? Jetez un coup d'œil sur les versets 25 à 27. Alors, Jésus leur dit, « Homme sans intelligence », Jésus est toujours très clair, « Homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il a fallu que ce soit ainsi. La mort du Messie était bien nécessaire. Il fallait qu'il souffre et qu'il meure avant de ressusciter et d'entrer dans sa gloire, à la droite de Dieu. Et si on devait parcourir les évangiles, on verrait que Jésus l'avait lui-même annoncé à maintes reprises. Je ne sais pas combien de temps Jésus a pris pour expliquer ça. Il avait sans doute quelques heures sur le chemin. Et je ne sais pas à quel passage il a fait référence. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a commencé au début de la Bible, dans l'Ancien Testament. Et il leur a montré tout ce qui le concernait. Et ce qui le concernait était partout dans l'Ancien Testament. Car depuis le début du message de la Bible, c'est clair que l'homme a besoin d'un sauveur. L'homme est loin de Dieu. Il ne le connaît plus. Pire, il est sous le jugement de Dieu parce qu'il vit dans son monde comme si Dieu n'existait pas. Il fait fi de ses commandements. Et la sanction divine, nous dit la Bible, Romains 6 par exemple, c'est la mort. La mort physique, bien sûr, mais plus que ça, la mort spirituelle. Et cela nous concerne tous, on aime bien se dédouaner, moi le premier, et cela d'autant plus que nous avons tellement de mal à ne pas suivre les désirs de nos cœurs, les commandements de nos cœurs. Il y avait un article dans le Figaro cette semaine en lien avec la loi sur le mariage pour tous, ou plutôt le mariage pour les couples homosexuels. Afin de mieux comprendre l'idéologie de notre époque, les auteurs de l'article ont parlé d'un concept fondateur de la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir, je cite, « l'autonomie personnelle ». Par là, donc je continue de citer, « par là, elle, la Cour, entend la faculté pour tout individu de mener sa vie comme il l'entend, c'est-à-dire d'être son propre législateur. » Fin de citation. Et sans savoir, ces deux auteurs, peut-être même la Cour européenne elle-même, ont bien défini le péché, cette rébellion à l'égard du Créateur. Mais ce n'est pas une chose récente. C'est quelque chose qui est enraciné dans nos cœurs depuis nos premiers ancêtres. Dieu, nous ne voulons pas de ta loi, nous voulons la nôtre. Celle qui nous permet de faire ce qu'on veut, comme on le veut. Mais depuis le début de la Bible, depuis le troisième chapitre du livre de la Genèse, Dieu a montré sa grâce, l'ampleur de sa magnanimité. Certes, Dieu ne fait pas semblant que cette rébellion n'est pas grave ou qu'il peut en faire abstraction comme si de rien n'était, mais Dieu promet un sauveur qui vaincra la mort. Plus loin, on voit qu'il sauve son peuple de l'esclavage en Égypte. Ce peuple passe par une mort symbolique dans les eaux de la mer Rouge avant de remonter de l'autre côté pour avoir la vie. Dieu lui donne sa loi. Il lui donne un temple, des sacrifices, un modèle pour leur permettre de vivre avec lui, le Dieu trois fois saint. Et nous voyons au travers des Écritures ce modèle, la mort, suivi de la grâce, suivi de la restauration. La mort, c'est la juste sentence pour la rébellion de l'homme. La grâce est celle de Dieu. Elle est gratuite, imméritée, la preuve de sa bonté. Chez le prophète Ésaïe, Dieu nous parle d'un serviteur innocent qui prend sur lui les fautes de son peuple, celles des brebis égarées. Je vais juste vous lire quelques versets. Peut-être Jésus a cité ces versets sur le chemin d'Emmaüs. Je suis assez sûr, il a dû les citer sur le chemin d'Emmaüs. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Et plus loin dans ce même passage, quelques versets plus tard, le prophète dit « L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. » On sent déjà la résurrection dans ce passage. Le Messie devait souffrir. Il a fallu qu'il meure avant de ressusciter et entrer dans sa gloire. Car sans sa mort, il n'y a pas de vie pour l'homme. On a besoin d'un sauveur qui peut prendre notre place, qui peut prendre sur lui la sanction que nous méritons. Sa mort n'est pas la fin de l'espoir, mais le début de l'espoir. Et sa résurrection est la preuve de l'efficacité de sa mort. Jésus a été réhabilité, déclaré innocent, son sacrifice a été accepté par Dieu. Il est le vainqueur de la mort. Pour nous, pour que nous puissions y échapper et connaître la paix avec Dieu, le pardon des péchés. On voit ce pardon annoncé quelques versets plus tard, au verset 47 dans notre passage. Et sa mort à Jérusalem, un fait historique incontestable, est un marqueur dans le temps, dans l'histoire, qui déclare haut et fort, pour tous ceux qui se fient à lui, que la colère que notre faute mérite est déjà tombée sur Jésus. Oui, nous la méritions, mais Dieu qui est juste ne va pas la faire tomber une deuxième fois sur nous. On la mérite, mais il ne va pas le refaire. La justice a déjà été faite une fois pour toutes. Et en Jésus, nous sommes libres, acquittés, pardonnés, en bon terme avec Dieu. Pour tous ceux qui mettent la foi en Jésus, Christ crucifié, il n'y a plus aucune condamnation. Loin d'être tristes, si nous comprenons la nécessité de la croix, nous allons être conduits à la joie. Et cette joie n'est pas que pour le début de la vie chrétienne. Nous vivons cette vie chrétienne en gardant la croix au centre. Parce que c'est là que nous voyons l'amour de Dieu, on voit sa justice, c'est là que nous voyons jour après jour notre besoin de lui et la grâce qui nous est montrée parce que Jésus a déjà payé pour toutes nos fautes, une fois pour toutes. Si nous gardons la croix au centre, nous n'allons pas passer à côté des bienfaits de Dieu. Jésus, le Christ ressuscité, veut que nous comprenions cela. Notre vie en dépend. Notre joie en lui en dépend. Combien d'heures d'angoisse nous seraient épargnées? Combien d'euros économisés chez des psychologues si seulement nous gardions cette croix au centre, le pardon qui en découle au centre? Lorsque notre repentance sincère envers Dieu se saisit de la grâce en Jésus, la paix, une paix qui dépasse toute compréhension, jaillit d'en haut. Voici quelques paroles d'un cantique que j'aime bien. Sa tendresse est sans limite et jaillit comme un torrent. Jésus paie et nous acquitte pour nous meurt un innocent. Son amour, sa bienveillance, pourrais-tu les ignorer? Chante avec reconnaissance. N'oublie pas de le louer. C'est un fleuve intarissable que des vers Golgotha, une source inépuisable. C'est l'amour de Dieu pour moi. Les écluses sont ouvertes. La justice coule à flot, car sa grâce m'est offerte et la paix jaillit d'en haut. Mais revenons au passage, donc on va passer à ce deuxième point. Cette rencontre avec Jésus met en avant comment la foi nés exactement. Le passage nous dit qu'ils étaient empêchés de le reconnaître. Ils devaient comprendre certaines choses, des choses que jusque-là, ils n'avaient pas encore comprises, avant de voir Jésus, avant de le voir vivant, lui, le Christ ressuscité. Moi, j'aime beaucoup le passage dans l'évangile de Jean, où on voit Thomas et sa rencontre avec Jésus. Thomas, c'est le disciple, l'apôtre qui a douté. Et je pense que ça rassure bon nombre d'entre nous. J'aime la tendresse de Jésus qui vient vers lui et qui lui montre ses cicatrices. Mais force est de constater que Thomas n'était de loin pas le seul à douter, parce que Cléopas et l'autre disciple ont douté aussi. Ils avaient entendu le témoignage des femmes. Nous le voyons au verset 22 et 23. Elles avaient vu le tombeau vide, ces femmes. Elles avaient raconté aux disciples le message des anges selon lequel Jésus était vivant. Mais ces autres disciples avaient du mal à y croire. Certains disciples sont allés vérifier les faits en se rendant au tombeau. Mais verset 24, lui, ils ne l'ont pas vu. Tout comme Cléopas et cet autre disciple ne voient pas Jésus qui est là devant eux. Lui, ils ne l'ont pas vu. Alors la foi chrétienne est une foi raisonnable. Elle est basée sur des événements historique, sur des témoignages multiples de la résurrection. Elle est logique aussi. Quelle autre explication donner au tombeau vide? Comment expliquer sinon la ténacité des apôtres qui ont témoigné jusqu'à la mort que Jésus était bel et bien ressuscité? Et pourtant, aussi logique et raisonnable soit-elle, personne ne vient à la foi de cette manière-là. Peut-être que vous êtes là ce matin parce que vous voulez vous renseigner sur le bien fondé de la foi chrétienne. Alors vous êtes au bon endroit. Et je vous remercie pour votre confiance. Certains d'entre vous sont peut-être là depuis un moment. Vous connaissez un peu l'histoire de Jésus. Vous voyez déjà les enjeux de son message. Mais vous ne pouvez pas encore dire que Jésus est à vous et que vous êtes à Jésus. Alors comment est-ce que Jésus fait avec ses deux disciples? Comment est-ce qu'il fait avec eux pour qu'ils voient, lui qui est droit devant leurs yeux? Alors, il ne les semble pas de croire le témoignage des femmes ou le témoignage des anges. Non pas que leur témoignage n'était pas vrai ou fiable, il était. Mais quelque part, ces témoignages-là manquent quelque chose. Qu'est-ce que Jésus fait au juste? Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entende sa gloire? Puis en commençant par les écrits de Moïse, la Bible, l'Ancien Testament, et continuant par ceux de tous les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus revient aux Écritures. Il revient à la Bible, la parole de Dieu, pour être précis, à l'Ancien Testament. Et il leur montre la personne de Jésus. Il leur montre que tout l'Ancien Testament est une grande flèche qui pointe vers Jésus de différentes, de multiples manières. C'est Jésus qui accomplit tout ce qu'on y trouve, la loi, le temple, les sacrifices, les prophéties. C'est lui qui est annoncé, c'est lui qui a la réalisation de son attente. Jésus est en train de leur montrer qui il est. Et c'est la Bible qui dévoile, qui révèle qui est Jésus. On peut argumenter, on peut discuter, on peut philosopher, mais c'est la Bible elle-même qui va convaincre quelqu'un de son besoin de se confier à Jésus, son besoin de chercher en lui le pardon. Alors c'est aussi une question d'autorité. Si moi je vous dis qu'il faut croire quelque chose ou qu'il faut faire quelque chose, vous allez me dire, vous n'avez que 38 ans, vous avez une expérience limitée de la vie, qu'est-ce que vous savez? Votre savoir est bien limité. Vous avez tendance à vous tromper. Vous n'êtes pas infaillible. Mais ce que Jésus fait ici nous montre où l'autorité se trouve, en Dieu lui-même. Dieu a rendu témoignage à lui-même dans les Écritures. c'est sa parole. Cette parole que son esprit a inspirée. Et ici, nous avons Jésus, le Fils de Dieu, qui expose les Écritures. Cette parole par laquelle Dieu lui-même se révèle et se dévoile. Physiquement, ces hommes ne pouvaient pas voir Jésus. Pourtant, Jésus était là, devant leur nez. Jésus n'a pas dit « Coucou, c'est moi ». Mais il les a amenés à voir, à le voir, en exposant les Écritures, pour qu'ils puissent voir dans les Écritures qui il est. Et puis dans ce passage, nous voyons que le moment de déclic vient lorsque Jésus, ayant expliqué tout ça, se met à table avec eux. On le voit au verset 30 à 31. « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Tout ce qu'il avait compris, tout ce qu'ils avaient compris, les a pointés vers lui. Et lorsque Jésus a pris le pain et prononcé la prière de bénédiction, leurs yeux se sont ouverts. La flèche était évidente. Ça ne pouvait qu'être Jésus lui-même. Le langage du pain et de la prière rappelle non pas la scène, ses deux disciples n'y étaient pas, mais la multiplication des pains lorsque Jésus miraculeusement a donné beaucoup de pain à partir de cinq petits pains. Il a montré qu'il était bien supérieur à Moïse. Il a montré qu'il était Dieu lui-même. Et c'est juste après cet épisode, donc c'est dans Luc chapitre 10, que Pierre fait sa confession de foi, que Pierre voit que Jésus est le Christ. Leurs yeux étaient empêchés de le voir, mais Jésus les a ouverts en exposant les Écritures, en leur montrant à partir des Écritures qui il est. Est-ce que vous voyez que c'est Jésus lui-même, par l'Esprit de Dieu, au moyen de la parole, qui nous donne la foi, qui nous conduit à mettre notre confiance en lui, à voir qui il est? Les disciples l'ont reconnu, donc ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» C'est l'Esprit qui a été à l'œuvre. La foi chrétienne est raisonnable et basée sur des événements historiques. Mais l'homme ne peut pas, en vertu de sa propre perspicacité, de sa propre logique, voir et croire. Si Jésus vous a amené à lui, si vous êtes à Jésus ce matin, c'est parce qu'un beau jour, gracieusement, par grâce, il vous a ouvert les yeux. Il vous a rejoint sur le chemin. Il a ouvert vos yeux. Il vous a conduit à faire demi-tour, à faire volte-face pour le suivre, pour annoncer à d'autres qu'il est vivant. Notre conversion est toujours une œuvre de sa grâce souveraine. Et ça nous empêche d'être fiers. Ce n'est pas par notre intelligence que nous sommes venus à la foi. Nous ne sommes pas plus intelligents que d'autres qui ne voient pas encore. Non, toute la gloire doit revenir à Jésus seul, à Dieu seul. Ça nous pousse à l'adorer pour la grandeur de sa grâce. Nous n'y sommes pour rien. C'est son œuvre. Oui, on peut regarder en arrière et nous dire « Oui, c'était évident. J'aurais dû le voir. » Mais il a fallu que Dieu intervienne, dans sa grâce qu'il intervienne. Et ça, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Ce matin même, il est à l'œuvre par sa parole, au moyen de l'Esprit. Il veut donner la vue, la vision aux hommes. C'est pour ça que nous voulons mettre la parole au centre de nos cultes, de tout ce que nous faisons à l'Église, et annoncer, exposer ces Écritures, et ensuite faire confiance à Dieu pour le reste, semer, et ensuite faire confiance à Dieu et à son Esprit pour donner la vision, pour donner la vue. Alors je ne sais pas où chacun en est ce matin, certains ont sans doute mis la confiance en Jésus. Votre confiance est en lui, en ce qu'il a fait pour vous à la croix. Alors d'autres croient peut-être faussement avoir mis la confiance en Jésus. C'est toujours triste quand ça arrive. Mais c'est notre attachement à Jésus, à la croix, qui nous montre que Jésus nous est devenu cher, que nous sommes vraiment à lui et que nous sommes à lui, qu'il est à nous. Et ce matin, ce n'est pas trop tard pour venir à Jésus, à mettre notre confiance en lui. D'autres encore ne savent pas quoi croire. Peut-être que vous voulez bien croire. Peut-être que vous avez un peu peur. Peur de ce que cela veut dire de donner votre vie à Jésus. Si c'est votre cas, j'aimerais vous inviter à lire ce petit évangile, l'évangile de Luc. Il y a quelques exemplaires sur la table derrière moi, donc je peux vous donner un exemplaire tout à l'heure. Ou prenez une Bible. On peut même prier ensemble si vous voulez. La Bible nous montre que Dieu est certes saint et juste, mais sa sainteté, sa justice sont bonnes, bienfaisantes, salvatrices, aimantes. On peut lui faire confiance. Lisez sa parole et demandez-lui de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir Jésus. Expérimentez le pardon et entrez dans la joie de Pâques. Pâques, c'est vraiment un sujet de joie, n'est-ce pas? Nous voyons cette joie dans les cœurs de ses disciples à la fin de ce passage, verset 33. Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rampait le pain. Cette joie, c'est la joie de connaître Jésus, de Christ mort et ressuscité, de connaître sa paix, de nous savoir en lui, protégé en lui. Lui qui a vaincu la mort, qui est mort pour nos fautes, qui est ressuscité pour que nous puissions avoir la vie dans la présence d'un bon Père céleste qui nous aime. Et ça, c'est le message de Pâques. Un message de joie, un message d'espérance, un message à partager libéralement. Christ est mort, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Gloire à Dieu. Prions. Merci notre Père de ce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance, dans l'incrédulité, mais dans ta grâce, selon ta grâce souveraine. Tu ouvres des yeux qui sont aveugles, qui n'arrivent pas à voir ton Fils, qui n'arrivent pas à voir la nécessité de la croix. Et Père, nous sommes nombreux ce matin qui veulent vraiment te remercier du fond de nos cœurs pour le miracle de la grâce. Nous n'en étions pas dignes, nous ne l'avons pas mérité, nous n'avons pas pu voir ces choses par notre propre intelligence. C'est seulement ta grâce qui nous a ramenés vers toi. Et nous voulons te louer. Et Seigneur, pour tous ceux qui sont encore en train de se poser des questions, Père, nous voulons te demander d'être à l'œuvre par ton esprit, au moyen de cette parole, pour qu'ils puissent voir Jésus, la grandeur de la grâce, leur besoin d'un sauveur. Et par ta grâce, dans leur la capacité de se tourner vers toi, dans la repentance et la foi. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.